C'est l'heure de Meilleur Espoir. Je reçois un ou une invitée dont je pense qu'elle ou il est une figure montante du cinéma français. Au cours d'un entretien libre, mon meilleur espoir du jour partage avec moi et avec vous tout ce qui permet d'entrouvrir la porte sur sa personnalité et sur ce qui le constitue en tant qu'artiste. Une émission d'Audrey Forestier sur Radio Campus Paris est disponible en podcast sur toutes les plateformes dédiées.
Le César de la meilleure espoir féminine.
Le César du meilleur espoir féminin.
Une espoir, c'est pas français, c'est un espoir.
Son César du meilleur espoir féminin.
Du meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir masculin.
Das meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir féminin.
Vous faites le plus beau métier du monde.
J'ai déchiré le papier en deux, ça commence bien.
Tout le monde connaît l'expression « angoisse de la page blanche », qui serait cette peur paralysante de ne pas parvenir à créer quelque chose de satisfaisant pour son public, de repartir de zéro à chaque nouveau projet et d'avoir tout à recommencer pour gagner ses galons d'artiste. La page blanche serait cet espace vide, stérile, qui vous toise de sa supériorité nihiliste. Mon meilleur espoir est loin d'être une page blanche. Il serait plutôt un parchemin ancien et en même temps si bien conservé qu'on ne saurait pas en dater l'origine. Quel âge a-t-on vraiment, finalement, quand vos papiers d'identité vous donnent 25 ans, mais que l'autre monde, celui du cinéma, vous donne surtout 18 ans de carrière? Comme si le 7e art avait trouvé un enfant chéri, parfait pour être le fils d'eux. Et souvent le fils de grands noms, le fils d'Isabelle Huppert dans Home, d'Ursula Meyer, chez Téchiné, le fils de Sandrine Kiberlin dans Quand on a 17 ans, ou de Catherine Deneuve dans L'adieu à la nuit, le fils de Virginie Efira dans Continuer, de Joachim Lafosse. Alors oui, je vois chez lui l'enfant, dans la douceur de ses yeux et dans sa grande sensibilité. Mais ce que je vois aussi, et surtout, c'est l'artiste qui se saisit de la page blanche pour en faire un immense espace de jeu, pour s'essayer à tout, avant que le livre ne se referme. Ce que je vois, c'est la silhouette qui s'épaissit au fil des rôles et une présence qui devient plus physique, plus posée, plus autoritaire d'une certaine façon. Pourquoi ne pas devenir danseur amateur le temps d'un film avec François Berléand dans The Last Dance, ou camper un marquis précieux du XVIIIe siècle aux prises avec un vampire dans l'excellent film d'Adrien Beau, Le Vourdalac? Avec une page blanche, on peut tout faire, même des dessins de Captain America et ainsi rejoindre un groupe de soldats augmentés de la Première Guerre mondiale dans une série de science-fiction à venir sur Canal+. Pour mon meilleur espoir, l'angoisse ne réside pas dans la page blanche. Elle serait plutôt dans la partition taillée sur mesure, comme s'il n'existait qu'un seul costume. Parce que, avec une page blanche, on peut faire des avions et s'envoler vite et libre. Et j'ai bien l'impression que c'est ce que préfère mon meilleur espoir, Kessie Mottet Klein. Salut Kessie.
Salut Audrey, salut. C'est magnifique, franchement très belle allocution et merci beaucoup pour cette introduction qui est très touchante.
Merci.
Vraiment trop cool.
Est-ce que Kessie, la liberté, c'est pas finalement ce qu'il y a de plus précieux dans ta carrière?
Oui, mais je dirais que je ne la sens pas vraiment, cette liberté. J'ai toujours eu l'impression, et je pense que c'est peut-être aussi l'impression de certains acteurs, que finalement notre corps ne nous appartient pas, qu'il appartient aux autres. Le regard qu'on porte sur notre corps nous appartient évidemment, mais il faut sans cesse faire plaisir aux autres, que ce soit même en dehors du cinéma ou sur un plateau de tournage, puisqu'on est sous la direction d'un réalisateur, et c'est lui qui décide un peu de ce qu'on fait avec notre corps, et en dehors également dans notre prise de parole publique et dans la manière dont, on doit agir en société. Ce qui a été difficile avec la liberté, la notion de liberté, c'est que j'ai commencé très tôt, et qu'à un âge où je pense qu'on a besoin de ressentir le plus cette liberté, moi je me sentais vraiment privé de cette liberté. Donc j'ai quelque part aussi essayé d'en avoir un peu, mais au mauvais moment. Donc par exemple sur des tournages ou lors de moments professionnels. Et évidemment, c'est difficile de me le reprocher puisque j'ai commencé à 7 ans et puis je parle plus de l'adolescence, là, vers mes 14-15 ans où on s'expérimente à plein de choses. Et donc cette liberté, elle a été, je pense, pendant longtemps assez floue pour moi. Ouais.
Tu viens de dire faire plaisir aux autres, mais toi, ton plaisir, il est où?
Moi, mon plaisir, il se trouve uniquement dans le jeu. C'est-à-dire, j'aime jouer, j'aime incarner, j'aime ressentir ces émotions. En fait, c'est vraiment à travers ces émotions que je me sens libre et vivant. Et ça, je n'arrive qu'à les ressentir lors de moments extrêmement forts dans la vie ou en jouant sur un plateau. En dehors de ça, ce métier ne me correspond pas vraiment, j'ai envie de dire, dans le sens où le jeu ne représente finalement que 5-10%, 15% de notre métier. Et tout le reste à côté, c'est de l'image, quoi.
L'image, c'est-à-dire quoi ? C'est quoi l'image ? C'est quoi le reste de ton métier ? Quand tu ne joues pas, c'est quoi le reste ?
Alors, il y a beaucoup d'attentes. Énormément d'attentes, beaucoup d'angoisse liée à cette attente. Moi, en tout cas, la manière dont je fonctionne, j'essaye de me couper au plus de mon métier lorsque je ne tourne pas. J'essaye de faire des choses complètement différentes, de rester productif, mais de faire des choses complètement différentes que le cinéma. Et quand je parle de l'image, c'est un peu la manière dont il faut réussir à jongler entre la conventionnalité de ce qu'on a envie de voir d'un acteur, quelqu'un de souriant, quelqu'un de gentil, qui va toujours bien, qui est quelqu'un de clean, qui est quelqu'un voilà, qui ne dépasse pas les limites de ce qu'on entend être conventionnel, et puis à la fois avoir aussi un peu de forme d'authenticité, quelqu'un qui se démarque un peu des autres. Et moi, j'ai l'impression d'être parfois trop authentique et de dire des choses qu'il ne faudrait pas que je dise, et parfois de me sentir un peu piégé là-dedans, mais de par ma propre faute, pas de la faute des autres. Mais c'est quelque chose que j'aime, c'est-à-dire j'ai pas envie de dire ce que les gens ont envie d'entendre et de faire ce que les gens ont envie que je fasse.
C'est fou la maturité avec laquelle tu analyses la situation.
Merci.
Bah, y en a eu d'autres, des acteurs de ton âge qui sont, avec qui j'ai pu parler, tu vois. Mm-hmm. C'est vrai que vraiment, on sent que t'as réfléchi à la chose, quoi. Parce que c'est depuis longtemps que tu fais mm-hmm. ce travail. Et du coup, je me demandais quand même, parce que ton histoire, elle est assez incroyable, tu commences vraiment très jeune, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter que ça se soit passé comme ça ? Est-ce que t'aurais pas préféré parfois... toi, venir au cinéma plus tard, quand t'étais prêt, mûr, plutôt que le cinéma qui vienne te chercher comme ça, qui vienne presque te tirer du nid, quoi. Mmh.
Bah, c'est effectivement, c'est une très bonne question, évidemment, mais j'aurais pas fait de cinéma si ça serait arrivé plus tard. C'était à ce moment-là ou jamais. C'était à ce moment-là quand je marchais dans la rue à l'âge de 7 ans et que Elena Tati, la productrice du film Home, est venue à ma rencontre avec mes parents et m'a proposé de faire ce casting. Ça ne se serait jamais passé autrement. Puisque déjà, moi, à cet âge-là, et encore aujourd'hui, je veux dire, pendant longtemps après ce premier casting, je n'ai jamais voulu faire de cinéma. C'était pas un désir d'enfance. Moi, je rêvais plutôt d'un cockpit, d'un avion, d'être policier, mais pas d'être acteur. Et donc ça ne serait jamais arrivé, mais je me dis, bien sûr, des fois je regrette, en tout cas, d'avoir choisi cette voie, puisque je n'ai pas vraiment vécu l'enfance que j'aurais dû vivre avec le cinéma. Mais je reste quand même satisfait de ce que le cinéma m'a offert, puisque j'ai quand même l'impression aujourd'hui d'avoir... moi qui ne suis pas allé à l'école, qui a arrêté l'école très tôt, je n'ai même pas eu mon brevet, donc je suis assez satisfait de la personne, je dirais, que je suis en termes de culture générale, en termes d'apprentissage de la vie. Et ça, c'est le cinéma qui me l'a offert, donc j'en suis reconnaissant.
J'avais vraiment trop envie que tu me parles d'un truc qui m'a fascinée quand je te vois dans les films. C'est ton, notamment dans Continuer de Joachim Lafosse ou dans Tempête, c'est ton rapport aux chevaux. Je suis estomaquée de ta maîtrise. D'où c'est ça vient beaucoup. Est-ce que tu as appris ça pour le cinéma ? Est-ce que c'était d'avant ? Est-ce que c'est une passion dans la vie ? J'ai trop envie que tu me parles de ton rapport aux chevaux.
Oui, j'ai fait un tout petit peu d'équitation quand j'étais petit, et puis j'ai arrêté. Donc c'est le film de Joachim Lafosse, Continuer, qui m'a permis de renouer ce lien avec les chevaux, avec l'équitation, où j'ai dû apprendre pendant plus de 6 mois à monter à cheval chez Mario Luracci, qui est vraiment le maître absolu en termes de dressage pour les chevaux, quoi. Donc on a fait ce tournage au Maroc pendant 2 mois, uniquement à cheval. Je suis tombé amoureux du cheval. Donc j'ai acheté le cheval du film, qui s'appelle Mektoub, que j'ai ramené chez moi en Suisse. Et c'était aussi un cadeau pour ma mère, puisque ma mère a toujours rêvé d'avoir un cheval. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est plus elle qui s'en occupe que moi.
Je suis pas souvent. On a tous fait ça avec nos parents. Oui. On leur a tous refilé nos animaux.
Le chien, le perroquet, et puis au final, on s'en occupe plus. Là, c'était un cheval, donc c'est quand même une
un peu plus gros. Ouais, c'est pas la même chose que d'acheter les croquettes du chat, j'avoue. T'es allé un peu fort.
Ouais. Elle savait, ma mère était sûre que j'allais vouloir le prendre et que je m'en occuperai pas à la fin. Mais... Enfin, je m'en occupe, je vais le monter dès que je peux, mais voilà. Et donc, ce rapport-là, avec le cheval et les animaux, de manière générale, est très fort chez moi. Puis on a toujours eu des animaux, et puis ce cheval, maintenant, fait partie de notre famille. Et en plus, c'est un cheval de cinéma dressé par Mario Loracci, que j'ai acheté à Mario Loracci, donc c'est vraiment un super cheval, quoi.
Par exemple, tu vois, une expérience comme ça, où tu mets 6 mois à apprendre, c'est kiffant pour toi ?
Ah, c'est génial, c'est génial. J'aime me mettre ces challenges-là, de me dire, ah bah là, il faut que j'apprenne à faire ça. Je pense que c'est le luxe d'un acteur. C'est vraiment de pouvoir avoir la chance d'être en pleine immersion, en immersion complète dans un rôle et de pouvoir, pendant l'espace, s'il y a la possibilité de le faire, le temps de la prépa, de pouvoir vraiment rentrer dans ce rôle et apprendre et rentrer dans des univers qu'on ne connaît absolument pas, que ce soit pilote d'avion, voilà, être un cavalier, enfin... Donc c'était vraiment une expérience incroyable, effectivement, que je n'oublierai pas.
Ça te dirait qu'on parle un peu de l'expérience du Vourdalak ?
Bien sûr.
Alors moi, j'ai adoré ce film. Je pense que les votants César ne l'ont pas vu.
Ouais.
Parce que c'est tellement dommage qu'il ne soit pas nommé dans la catégorie du premier film, ouais, ou que tu ne sois pas nommé dans la catégorie du meilleur acteur. C'est génial ce que tu fais.
Merci, c'est très très gentil.
C'est plein d'autodérision. Il y a une écoute incroyable de ta part. Il y a la scène du repas. Où il y a le vampire qui arrive, le Vourdalak, ouais, qui arrive pour la première fois. Où tu sais, ça m'a fait penser à cette scène, pourtant rien à voir, hein, mais cette scène de Juste la fin du monde,
oui,
de Xavier Dolan, ouais, la scène du, ouais, repas où Gaspard Ulliel est dans l'écoute et il joue incroyablement bien. Cette scène de repas, c'est drôle, ça m'a fait écho, alors que ça n'a rien à voir, mais je trouvais qu'il y avait un écho fort parce que toi aussi, tu es dans l'observation, l'écoute, hyper active parce que t'es complètement à l'écoute de tes partenaires.
Ouais.
Bon, je trouve
que c'est un personnage complètement excentrique. Ouais.
Ouais. Et avec beaucoup d'humour, tu fais ça avec beaucoup d'humour. Moi, je trouve que ce film, c'est un petit bijou.
Bah, trop bien, merci.
Et voilà, et j'aurais trop aimé que tu me parles du tournage, de comment t'as été approchée pour ce film. Je suis hyper contente que tu l'aies fait, quoi.
Bah, merci, c'est trop cool. Bah, c'est fou que tu l'aies vu, en plus, parce qu'effectivement, malheureusement, on a eu un distributeur qui n'a pas cru au projet, je pense. Donc, le film n'a finalement été que très peu vu. Mais cette expérience était aussi formidable. Donc, j'ai été approché par Adrien Beau et Adrien Bouvier, donc le réalisateur et le scénariste, qui voulaient qu'Ariane et moi, donc Ariane Labed et moi, jouions voilà, ce duo dans le Vourdalak. Au début, je me suis dit, waouh, trop bien, film d'horreur. J'ai toujours rêvé de faire du film de genre, donc je me suis dit, ah, ça va être génial, je vois un truc un peu à la Conjuring, un truc hollywoodien, avec des effets de grue, enfin, voilà. Mais pas du tout. Il nous annonce que c'est en Super 16, et je commence à connaître le personnage d'Adrien, qui est une personnalité très singulière, très excentrique aussi, et magnifique. Et donc je réalise peu à peu le projet dans lequel je suis en train d'embarquer, donc que c'est vraiment un film à petit budget, et il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, mais je déconstruis peu à peu, en tout cas, le fantasme que j'avais du film d'horreur. Et on répète avec Adrien, on répète, et on arrive à trouver ce personnage de Durfé, qui est, je trouve, hyper attachant et a été incroyablement chouette à incarner. Et puis, avec une vraie trajectoire, tout à fait, tout à fait. Et puis oui, dans un film, enfin, conte vraiment, un conte, poème, quelque chose de très onirique qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Et finalement, bah, j'ai été encore davantage plus emballé que si j'avais fait un Conjuring, quoi. Parce que c'était une vraie empreinte, une vraie singularité, puis un vrai risque aussi dans ce qu'on faisait.
Et c'est hyper audacieux, c'est quand même un film d'horreur. Et un film historique, enfin, un costume d'époque, du 18e.
Un film de vampire, enfin, il y a un peu tout est mélangé, quoi, dans cette espèce de dramaturgie très, très, très particulière. Et vraiment la collaboration, enfin, je suis tombé d'amour avec Adrien. Je ne l'ai pas acheté comme Mektoub, mon cheval, je ne l'ai pas amené en Suisse, mais en tout cas, ouais, tombé d'amour pour cet homme qui a une sensibilité et un parcours de vie assez, assez fascinant. Ça a été vraiment un très chouette tournage. Et Judith Loulévy, la productrice, a été extrêmement forte de croire en ce projet, que peu de producteurs, je pense, auraient voulu suivre.
Ouais, il faut voir ce film, il faut absolument voir ce film.
Bah, merci, effectivement, il faut le voir. C'est dommage qu'il n'ait pas eu le succès qu'il aurait mérité. Mais après, c'est un film très particulier. Je pense qu'il ne faut pas le vendre comme un film d'horreur. C'est un peu la manière dont il est vendu. Mais c'est vrai que si on va le voir comme un film d'horreur, on est déçu. Parce que ce n'est pas les films d'horreur auxquels on s'attend.
Non. Et puis, il y a plein de scènes qui sont drôles aussi, quoi.
Et complètement, ouais.
Je suis contente qu'on ait parlé de ça. Thank you.
Meilleur Espoir, un vendredi sur 4 à 19h sur Radio Campus Paris.
Cassie, on va peut-être parler un peu de ta playlist.
Ouais. Je vais commencer par Post Pie de Daniel Hart. C'est une magnifique chanson donc, composée par Daniel Hart qui est dans le film Ghost Story de je ne sais plus qui malheureusement.
David Lovery.
Je sais pas si c'est la bonne prononciation exacte, mais c'est un film que j'ai adoré avec Casey Affleck et Rooney Mara. Ouais. Et cette chanson peut à la fois apparaître dans un film romantique, et dans un thriller, et dans un film d'horreur. Et je trouve qu'elle est juste tout simplement splendide. Il y a deux notes, enfin, c'est du violoncelle, et c'est absolument splendide.
Pourquoi tu l'as aimé, le film ?
Bah, j'ai aimé que le personnage du fantôme, donc joué par Casey Affleck, soit représenté juste de la manière la plus cliché. Donc juste une personne sous un drap blanc. Et c'est une vraie histoire d'amour, en fait. Elle est magnifique, ça parle du deuil. Et j'adore Rooney Mara, j'adore Casey Affleck, même si on ne le voit pas dans le film, puisqu'il est sous ce drap blanc. Mais non, c'est un film qui m'a beaucoup touché. J'aime bien le mélange romantico-horrifique.
Ouais.
Je trouve ça assez intéressant. Good Luck de Vanessa Di Matta feat Ben Harper. Bon, on adore Ben Harper c'est une super musique qui mélange de la bossa nova brésilienne et Ben Harper, magnifique chanteur. Voilà. Agnès Obel, j'adore Agnès Obel. Bah, je l'ai découverte, c'est marrant, il me semble que. Bah oui, je l'ai découverte sur le Vourdalak, Agnès Obel. C'est un régisseur qui m'a fait découvrir Agnès Obel sur le Vourdalak. Et je me rappelle, on était dans la voiture, puis je dis t'aimes bien cette musique ? Puis il fait bah ouais, c'est moi qui te l'ai fait, découvrir. C'est absolument splendide, Agnès Obel. Enfin, je trouve tous ses albums, il n'y a aucune faute. Et puis Gora, Night Freak de Emmanuel Jal. Jolie petite mélodie de Tech House. Je sais pas si c'est de la tech house exactement, parce qu'il y a tellement de variantes différentes dans l'électro, mais en tout cas voilà, des petites notes fraîchement arrivées d'Ibiza.
Parce que du coup, tu t'y connais en musique électronique.
Je suis un peu amateur de musique électronique, ouais. J'aime beaucoup la musique électronique.
Et un peu comme Louis Pérez, du coup.
Bah, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire en plus. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me demande peut-être même si ce n'est pas un titre que Louis m'a fait découvrir. Lui est un très très grand amateur de musique électronique. Et il a un répertoire musical juste exceptionnel. Il mixe aussi un peu.
Donc oui, Louis qui t'avait désigné pour venir discuter un peu avec moi.
Ouais.
Est-ce que tu veux, Casey, qu'on passe à la phase des cartes de couleurs ?
Donc, carrément, comme tu veux. Dis,
voilà, si donc il y a de plein d'enveloppes de couleurs différentes. Tu peux soit les choisir au hasard, soit tu décides de la couleur que tu veux. Je te les étale toutes. Qu'est-ce que tu préfères ?
D'accord, bah, je veux bien aller sur le hasard.
Sur le hasard ?
Ouais.
Waouh.
Donc ça veut dire que je mets ma main dans,
ouais,
le,
voilà,
dans ce petit panier rouge. Je prends
carton,
une carte, la
voilà.
Première. Ok, Dieu sait. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Ouais.
Et c'est donc un gris argenté.
C'est un gris argenté. C'est une signification ?
Non.
Non. Oh ! Mais tu. Alors, avant qu'on, ouais, qu'on commence à enregistrer, ouais, t'avais tiré une carte.
Ouais.
Et bah, je retombe sur la même.
Bon, tu veux qu'on change ?
Non.
Parce
bah,
que du coup, c'est un peu dommage ou tu trouves que t'es un peu déçu ?
Bah, ça doit être un signe, non ?
Bah, ouais.
Est-ce qu'il y a que ça dedans ?
Ouais,
que... Le donc, truc c'est mensonge.
C'est complètement truqué.
C'est... Ouais, c'est.
Donc, mensonge.
Je parle de mes mensonges, quoi.
Alors,
en
déjà,
plus, je
sais
mens
pas,
beaucoup.
Est-ce que tu mens ?
Oui, ça m'arrive de mentir.
Ouais, ouais. T'as pas, ouais, un principe là-dessus, genre, non, mais bah, moi, je ne mens jamais.
Non, j'ai pas de principe là-dessus. Après, éthiquement, je suis pas. Non, j'aime pas le mensonge. Mais ça m'arrive de mentir. Ça m'arrive plus d'extrapoler que de mentir. J'aime bien. Je suis un peu marseillais, je pense, de ce côté-là. J'extrapole pas mal les choses.
Et j'ai un aussi... truc d'acteur, un peu, ça ?
Oui, peut-être. Peut-être.
Pour raconter, bah,
c'est pour,
les
ouais,
choses.
Pour vivre plus, c'est-à-dire c'est pas suffisamment fort en émotion, donc il faut que ce soit plus fort en émotion, donc rajoutons, il faut qu'on en rajoute une couche, quoi. Mais j'ai menti ce matin, dans le train, à un monsieur qui était assis à côté de moi, qui parlait beaucoup, 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 beaucoup.
Je sens que j'ai marré.
Donc je prie un peu toujours pour que les gens qui s'assoient à côté de moi ne parlent pas trop. Dans les transports publics, j'aime bien, voilà, être dans ma petite bulle. Et là, je vois ce monsieur qui arrive très gentil, mais qui commence à beaucoup, beaucoup parler, à me poser plein de questions. À chaque fois, je remets mon écouteur, donc je suis poli, je lui réponds, j'enlève mon écouteur,
mais
je lui réponds.
C'est parce qu'il t'a reconnu ?
Non, pas du tout. Non, je pensais que c'est vraiment quelqu'un qui avait besoin de parler. Donc, il me pose énormément de questions. Il affirme des choses. Voilà. Et j'ai regardé une vidéo YouTube d'1h30 sur un interrogatoire de policiers aux États-Unis. Et à la fin, je termine, on arrive à Paris, et juste avant d'arriver, il me dit, alors qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, où est-ce que vous habitez? Donc je lui dis, j'habite entre Lausanne et Paris, et puis donc il me dit, ah mais super, donc qu'est-ce que vous faites comme métier, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui dis, je suis policier. Et il fait, ah mais il me semblait bien, parce que j'ai vu l'interrogatoire que vous regardiez sur votre ordinateur, puis je fais, oui, effectivement, on nous a demandé de regarder ça dans le cadre, dans le cadre du métier, donc voilà. Et je continue là-dessus, et il me dit, ah mais c'est, donc vous faites quoi exactement? Puis je dis, bah je suis la brigade criminelle chez Interpol, et donc je continue un peu là-dessus. Et je me dis, mais c'est génial, quoi. Enfin, j'ai adoré rentrer dans ce personnage-là. Après, c'est pas un mensonge très grave du tout, hein, parce que ce monsieur, je ne le connais pas. Donc voilà, il n'aurait pas appris plus de choses sur moi si je lui avais dit que j'étais acteur. Et finalement, ça m'a permis un peu de m'entraîner dans l'actorat, quoi.
Bon, voilà. Mensonge avoué, pardonné. Très voilà. Bien. Toi, tu pardonnes facilement le mensonge?
Oui, mais de manière générale, je suis pas quelqu'un de très rancunier. Après, les mensonges, c'est vrai que c'est quelque chose de pas très agréable. Ce que j'aime pas, c'est de ne pas assumer les choses, quoi. Enfin, c'est-à-dire, je pardonne si on assume avoir fait une connerie, quoi, sans problème. Mais les gens qui ont de la peine à s'avouer être coupable de quelque chose, ça, pour le coup, ça peut, pas m'énerver, mais en tout cas me décevoir. Toi, est-ce que tu mens?
Alors, oui, je peux mentir pour m'arranger un peu sur des trucs. Par contre, je ne mens jamais à mes enfants.
Tu ne mens jamais, c'est très bien.
Je me dis qu'un jour, ce sera payant.
Ouais, complètement.
Qu'il y aura une honnêteté, qu'ils ne mentiront pas non plus quand ils seront plus grands. Ouais. Genre, mais même quand ça ne m'arrange pas du tout, quoi.
Donc, pas de tabou de famille, absolument rien, quoi.
Non. Okay. Même quand ça ne m'arrange pas...
Les enfants doivent... Je pense que des fois, on les sous-estime un peu. Je pense que honnêtement, ils doivent tout comprendre, quoi. Enfin, si on leur explique bien les choses, il n'y a pas de raison de leur mentir. Je pense qu'ils sont capables de comprendre beaucoup de choses, même très tôt.
Et
enfin, je n'ai pas encore d'enfants, hein, donc tu dois mieux savoir que moi-même.
Ouais, t'as envie d'avoir des enfants?
De ouf, ouais.
Ah ouais, ouais.
C'est un de mes rêves, je veux dire, c'est un objectif au court terme, quoi. Enfin, j'espère avoir des enfants assez rapidement.
Ah ouais. Tu crois avoir trouvé la maman de tes enfants?
Non, pas encore. Ah. Je l'avais, mais elle est partie.
Ah merde. Mais ok, tu te verrais bien papa.
Ouais, j'ai vraiment ce désir, ce besoin de paternité. J'ai envie d'inculquer, de transmettre à mes enfants.
C'est la transmission, ouais.
C'est la transmission, ouais, qui m'intéresse. Et puis vraiment, ces petits moments en famille, genre en train de regarder un film tous ensemble, sous une couverture, ça c'est vraiment le kiff, quoi. Ces petits dimanches en famille ou d'aller se promener, voilà, c'est ces moments de, voilà, d'avoir le sentiment qu'on a créé sa petite famille, c'est vraiment quelque chose qui m'attire.
Et tu crois que si un de tes enfants te dit qu'il veut devenir acteur, ce sera ok pour toi ou ça te fera peur?
Carrément. Non, non. Ouais, carrément. Je pense que oui, j'aurais envie qu'il fasse ce qu'il veut. Je pense que j'aimerais quand même qu'il puisse terminer ses études avant et qu'il soit vraiment sûr de qu'il ait envie de faire ça, mais aucun problème, ouais, bien sûr. Même qu'on joue ensemble, ça pourrait être génial. Mais moi, je sais pas si je serais toujours acteur à ce moment-là.
Tu envisages parfois de faire autre chose?
Ouais.
Genre, tu serais quoi?
Bah, policier.
Mais non, mais vraiment?
Bah, alors, je sais que c'est peut-être un peu délicat de dire ça en ce moment. Policier dans le but de rentrer à la criminelle, pas dans le but de donner des amendes.
Être enquêteur,
tout à fait, ce qu'on appelle detective aux États-Unis. Donc, moi, je suis moitié américain, donc j'ai envie de... Enfin, si je le fais, c'est pas en France, mais c'est aux États-Unis et en Californie. Et j'ai commencé à regarder, d'ailleurs, cette année, comment faire pour devenir policier aux États-Unis et de regarder les écoles, les police academy là-bas. J'hésite vraiment fortement j'envisage vraiment fortement de le faire. J'ai 2-3 films à terminer là en France cette année et puis après pourquoi pas, franchement.
Mais si tu deviens inspecteur, tu seras plus acteur?
Je serai plus acteur. Je pense que ce qui est important, c'est de pas avoir peur de ne plus l'être aussi. Je pense que si on s'attache trop à ce métier qui est tellement incertain et tellement aléatoire, et ben on ne peut que être déçu, puisque on traverse sans arrêt des périodes d'attente très longues parfois, où on se dit plus personne ne veut de nous. Donc je pense qu'il faut être prêt à n'importe quel moment à changer de métier et puis avoir... c'est pas une base solide, l'actorat, quoi. Enfin, le cinéma, c'est pas une base solide, donc il faut avoir quelque chose à côté de plus fort, de plus solide. Que ce soit une passion, que ce soit un autre métier, ça c'est important, je pense. Pour prendre conscience que ce métier n'est pas acquis, quoi. Elle ne sera jamais.
Ça me fait un drôle d'effet que tu me dises ça. D'un côté, je suis contente parce que ça veut dire que tu viens de me donner une info qui est quand même importante sur toi. Et d'un autre côté, ça me rend triste.
Ouais.
C'est bizarre quand même.
Bah, c'est gentil que ça te rende triste.
Ouais, il y a un truc ouais, comme une perte, comme si on perdait quelque chose, tu vois. Mais bon, cette décision n'est peut-être pas définitive. En plus,
Elle n'est peut-être pas définitive, effectivement. Ouais.
Et, mais quand même, en plus, ce n'est pas le même confort de vie. Pardon, mais c'est vrai qu'on gagne bien sa vie quand on est acteur pour le cinéma.
Alors,
quand même.
C'est effectivement une donnée assez importante. Enfin, ça voudrait dire au revoir à beaucoup de choses et un confort de vie, effectivement. Voilà. Mais je suis réellement passionné par ce métier.
Pourquoi ? Alors voilà, moi, je veux bien que tu me dises pourquoi.
Bah, c'est compliqué, c'est-à-dire, c'est un métier qui, comme le cinéma, est un métier fait de plein de surprises. Enfin, tous les jours sont différents. Il y a vraiment rien de monotone dans ce métier. Et puis, c'est servir sa communauté, servir ses citoyens. Cet esprit-là, je le trouve magnifique, de pouvoir, de manière un peu, enfin, il y a un côté voyeur chez les enquêteurs criminels qui est particulier, mais d'effectivement assister à cette misère sociale et de pouvoir faire en sorte, dans cette misère, de pouvoir aider un peu les gens. Je trouve ça assez chouette et j'ai envie de pouvoir être confronté un peu à la dureté du monde. J'ai l'impression d'en être conscient au quotidien, que le monde, mais au-delà des guerres, vraiment que le monde de tous les jours, tel qu'on le vit à Paris, tel qu'on le vit aux États-Unis, dans des pays qui ne sont pas en guerre, est très très dur aussi, extrêmement dur, et que au-delà de la pauvreté, il y a des crimes, il y a des délits et des choses qui se font qui sont absolument abominables. Et voilà, j'ai envie de pouvoir me sentir utile dans ce sens-là. J'ai envie d'être un bon policier aussi, d'être un gentil flic. Et ça, je pense qu'il y en a, il y en a des très mauvais aussi, beaucoup. J'ai envie de pouvoir montrer aux gens que j'interpelle ou aux gens que je côtoie qu'il y a des gentils flics aussi, des très bons flics. Et voilà.
Of the dirt on the river.
Tu dirais que la justice, ça te passionne ? C'est quelque chose qui est important pour toi ? Tu es sensible à l'injustice ?
Oui, ah ouais, très très sensible à l'injustice. Et à la justice de manière plus générale, j'y apporte beaucoup d'importance parce que je pense que c'est nécessaire pour pouvoir vivre en communauté. On a besoin d'une justice, on a besoin de lois, on a besoin d'un cadre qui nous permette de vivre tous ensemble. Alors je ne dis pas que j'ai jamais franchi les limites des lois, mais en tout cas, je pense qu'en grandissant, oui, elles sont importantes. Et l'injustice, c'est quelque chose qui me touche énormément, qui touchait ma mère beaucoup. Je pense que c'est une émotion, en tout cas, qu'elle m'a transmise. Voilà. C'est quelque chose avec laquelle j'ai toujours eu beaucoup de peine, en tout cas, de faire face à l'injustice. Ouais. Maintenant, en grandissant, c'est comment la gérer, cette injustice. C'est-à-dire, non pas avec de la haine, comme j'ai pu l'avoir quand j'étais enfant, enfin plus jeune, adolescent, mais d'essayer de comprendre les schémas et les fonctionnements humains et d'essayer de comprendre comment est-ce que les gens viennent à faire de telles choses et à agir de telle manière. Et ça, je pense, c'est le vrai travail d'un enquêteur. C'est de pas agir sous la haine, sous l'impulsion, mais de vraiment comprendre les fonctionnements humains, et même chez les pires personnes. Et il n'y a pas de pires personnes. On a tous un fonctionnement, on grandit d'une certaine manière, on se développe d'une certaine manière, on devient, je pense, qui on était quand on était plus jeune, et selon les choses qu'on a vécues. Donc... Ça me ferait peur d'avoir un flingue à ma ceinture parfois, je me dis quand même, dans certaines circonstances, de voir certaines choses et de me dire j'ai un flingue à la ceinture. Et je pense que c'est la peur de beaucoup de policiers aujourd'hui. Hein. C'est cette idée de se dire, bah voilà, on a ce pouvoir, alors pas de tirer sur quelqu'un, mais ce pouvoir d'arrêter les gens et d'agir sous l'impulsivité, il n'y a rien de plus dangereux en fait finalement, surtout quand on est policier. Donc ça me ferait peur, mais je pense que c'est quelque chose avec le temps, avec lequel on...
Que tu apprivoises et que tu...
Qu'on apprivoise en grandissant, ouais. Oui, c'est qu'on apprivoise en grandissant. Après, on reste humain et les erreurs se font. Malheureusement, les erreurs... Il y a des erreurs qui sont irréversibles et auxquelles les policiers ne devraient jamais avoir à faire.
Quand tu étais gamin, tu étais plutôt en colère ?
Oui, ouais. J'ai tapé pas mal de murs.
Comment ça s'est passé, la colère ?
C'était...
À qui, grâce à quoi ?
Apprendre à... Bon, déjà, je pense le travail, le cinéma m'a permis de gérer cette colère, cette frustration, parce que simplement le fait de travailler en équipe, d'être entouré d'autres personnes faisait que je devais m'abstenir et donc gérer en tout cas ces émotions différemment. Le cinéma aussi, de manière émotionnelle, m'a appris à me connaître émotionnellement, à faire beaucoup d'introspection sur moi-même, un peu comme une psychothérapie, quoi. Et donc d'apprendre à gérer ces émotions de manière beaucoup plus générale, sous un spectre beaucoup plus grand. Et la psychothérapie en elle-même, j'en ai fait beaucoup et je continue toujours, et donc ça m'a bien aidé. Et le sport, je pense, grand canalisateur.
Un autre point commun avec lui, ouais. Beaucoup de sport.
Oui, beaucoup de sport. Ouais,
tu fais quoi ?
Un peu de tout, je fais beaucoup de Tabata, je cours.
Alors Tabata, pardon
pour Tabata, en gros, bon, c'est des exercices, c'est 30 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération, ou 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération, sur des durées de 30, 45 minutes, 1 heure. C'est cardio et strength. Et je cours, je marche, je fais beaucoup de marche en montagne, un peu de musculation. Et puis avec Louis, on a... Alors j'avais découvert un bootcamp qui s'appelle Barry's. Ça vient des États-Unis. Il y en a un à Paris. Et c'est excellent. Et j'ai emmené tous les sentinelles, Thibaut Evrard et Louis là-bas. Donc c'est en gros une salle plongée dans le noir avec une lumière rouge, avec des profs qui parlent en anglais et qui te crient dessus, et une musique hyper forte.
Et c'est génial.
Et c'est génial. Et tu souffres pendant, tu souffres ta mère pendant 50 minutes et puis après tu ressors de là et tu te sens ultra léger quoi. Et voilà. Mais si tu veux venir d'ailleurs une fois à Barise avec Lou et moi, vu que je sais que tu fais, enfin j'ai entendu que tu faisais du sport.
Je vais y réfléchir. Ouais. C'est marrant parce que moi j'attends toujours qu'on m'invite à des fêtes et tu me proposes d'aller me faire mal au sport.
Grave. Ouais, ah, d'accord, grave,
ok,
grave.
C'est sympa.
On fera les deux. On ira d'abord chez Barise, comme ça on culpabilisera pas de faire la fête après.
Tu peux tirer une autre carte si tu as envie.
Mmh. Bon. Est-ce que toi, tu vas tirer une carte
avant? Non. Ou pas? Bah, je peux, mais ce sera coupé au montage.
Okay. Mensonge encore. Ce serait énorme. C'est art. Hein. Mensonge, elle veut absolument que je confesse.
Pardon.
Art avec S entre parenthèses.
Est-ce que, en dehors du cinéma, il y a d'autres arts qui t'intéressent? Est-ce que tu as déjà pratiqué d'autres arts ou est-ce que tu le ferais éventuellement?
Bon, les arts, ça peut être très subjectif. Hein. Il y a des arts de maîtrise sociale, quoi. Enfin. Mais j'ai pas pratiqué d'autres arts, non.
Genre la peinture, non. La musique.
Non.
Non.
Mais j'aimerais beaucoup. Enfin, j'aurais bien aimé savoir jouer d'un instrument. J'aurais bien aimé savoir bien chanter. J'aurais bien aimé savoir peindre. Malheureusement, je ne fais pas tout ça. Pas trop tard pour apprendre, mais.
Et le théâtre?
Le théâtre, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Même avant que je fasse du cinéma, j'ai fait une pièce de théâtre à l'école, comme beaucoup de gamins. Et puis, c'était Le Soldat Rose. Et j'ai oublié mon texte sur scène et ça a été un enfer.
Ouais, c'est dur.
Et donc, ça m'a un peu traumatisé. Mais, aussi, mais je dis non aussi parce que ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est un art complètement différent. C'est moins subtil et il n'y a pas vraiment la technicité requise qu'on demande au cinéma. C'est-à-dire ce jeu avec la caméra. Faudrait que je m'y mette une fois pour pouvoir vraiment dire non, mais je sais pas quelque chose qui m'attire, non. Et Louis, je sais pas si t'as vu, t'es allé voir sa pièce?
Bien
sûr. Trop bien, ouais, trop bien, il est incroyable.
C'est à la fin de Daddy que je lui ai envoyé un courrier en fait.
Ah ok, trop bien.
Voilà.
Ouais, ouais. Très très belle pièce, hein, très belle pièce. Il est incroyable dedans, le petit Louis, le grand Louis. Let's go. Mensonge. Une fois, mais pas deux. Deux fois, mais pas trois. Ouais. Alors, nuit. Waouh. Nuit. Ça, c'est nuit. Beaucoup de choses. Ça,
est-ce que t'es du genre à veiller tard?
Ouf.
Est-ce que tu... Genre, t'es pas fatigué la nuit, quoi?
Ouais, je suis du genre à veiller tard, ouais. Je suis du genre à veiller tard. C'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. J'essaie de me coucher plus tôt, quoi. Je fais trop la fête, à mon goût. Mais bon, ça doit faire partie de l'âge. Hein. Je suis encore jeune, malgré tout. Et oui, j'aime la nuit. J'ai un gros problème de FOMO, donc the fear of missing something. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce que je pense que la nuit est faite pour dormir et que on a besoin de sommeil pour pouvoir apprendre ses textes, pour être en forme. Et donc voilà. Et surtout que j'aimerais bien dormir un peu avant d'avoir des enfants, quoi.
Alors, ouais, tu me le confirmes. 1000%. C'est terminé.
Ouais, après,
c'est
terminé.
Fini. Exactement. De la vie.
Ouais.
Jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans, je pense.
Ouais. Ouais. Clairement.
Voilà. Et puis, de toute façon, ton sommeil sera tellement bousillé. Tu sais, elle a fait ce lâche. Ton sommeil sera tellement bousillé que, de toute façon, même quand ils auront 20 ans et qu'eux, ils dormiront, toi, tu ne dormiras quand même pas.
Ouais. Ils ont quel âge, les tiens?
Alors, moi, j'en ai un qui va avoir 5 ans.
Ouais.
Donc, ça fait 5 ans que je ne dors pas.
Ouais.
Que ce soit clair.
Ouais. Ouais. Ouais.
Et un qui a 22 mois.
Ouais, ouais.
La grasse mat, c'est
clairement.
Fini.
Clairement. Clairement.
Les gens qui te disent, tu sais, quand leur gamin a 3 mois, Octave fait ses nuits depuis qu'il a 8 semaines. Tu sais, moi maintenant, je sais la vérité.
Ouais.
Je sais que Octave, au premier rhume qui va choper Octave,
c'est dead.
Ouais, ouais. C'est fini, il ne fera plus jamais une seule nuit de sa
bien
vie.
Sûr. Parce qu'il sera décalé. Après.
Ouais, parce qu'il ne va pas bien respirer, parce qu'il aura le nez bouché, parce qu'il faudra que tu sois là.
Bah, ça, c'est vraiment un truc. Je sais pas ça, par contre, je me dis, il faut que j'aie assez, avant d'avoir des enfants, assez d'argent pour payer des nounous. Ça, c'est clair. Alors,
c'est peut-être un peu affreux de dire ça, mais j'ai envie de pouvoir m'occuper de mes enfants que dans ce qui est chouette, que dans le fun, et le reste, enfin tout ce que je peux déléguer, je déléguerai quoi. Enfin tout ce qu'on peut déléguer avec ma femme, on le fera. Mais ouais, enfin en tout cas, je et en tant qu'acteur, je pense que c'est obligatoire d'avoir des nounous, parce que on est tellement amené à voyager tout le temps et on n'est jamais là, donc si on n'en a pas, ça devient un peu compliqué.
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 19h sur Radio Campus Paris.
Est-ce que tu veux tirer une autre carte?
Mais grave,
ouais, okay.
J'ai plus de surprise maintenant, je sais sur quoi je vais tomber. Je vais arrêter un moment cette blague pourrie.
Ça marche.
Je vais arrêter. Ah, tabou, limite.
Est-ce qu'il y a des trucs... Alors, la question de merde, en fait. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu ne parles jamais? On t'écoute.
Non, mais ouais, genre... Vu que j'en parle jamais, je n'en parlerai pas. Non, je... Alors, tabou, limite.
Des terrains sur lesquels tu ne t'aventures pas.
J'ai pas envie de me mettre trop en danger. Par exemple, sur la carte précédente, la nuit, j'aurais pu dire des choses supplémentaires et ça me dérange pas. Je considère un peu, et je m'étais fait reprendre en Suisse par un journaliste qui avait dit que Casey Motteklein considérait les interviews comme une psychothérapie. Et c'est vrai, je considère un peu les interviews comme une psychothérapie parce que finalement, c'est un peu un lieu dans lequel on est amené à parler de nous, quoi. Donc ça permet aussi de faire un peu d'introspection en même temps. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même pas envie de me mettre en danger parce que on est très vite jugé. J'ai pas beaucoup de tabous, en tout cas pas au quotidien, ça c'est clair.
La nudité à l'écran, non, par exemple, non, c'est pas un tabou pour
non,
toi.
Non, du tout.
Tu ouais. peux être nu.
Ouais, je oui. peux être totalement nu. j'adore. Non, j'ai très peu de pudeur, très peu de gêne, autant dans mes paroles que physiquement, et j'aime
alors,
bien.
Moi, je reviens sur un truc, et j'ai trop bien compris ce que tu as voulu dire. Tu t'exprimais sur les tournages quand tu étais enfant, et tu disais que tu n'acceptais pas que ta mère vienne sur le plateau.
Ouais.
Et tu as eu cette image hyper forte, tu disais, c'est un peu comme si tu faisais l'amour avec elle, voilà. Et je comprends ça, c'est hyper impudique en fait,
ouais,
quand tes parents te voient jouer.
Ouais, complètement.
C'est hyper impudique, je comprends. Ça, c'est une limite.
Bah, d'ailleurs, c'est marrant, pour revenir un peu sur ce que je disais, c'est vrai que si j'ai des tabous ou des limites, c'est avec ma mère. Vraiment. Il y a très peu de choses dont je peux parler finalement avec ma mère de ma vie sentimentale ou privée. Enfin, je veux dire, elle pourrait l'entendre, mais moi...
Ça te gêne.
Ça me gêne énormément, mais c'est la seule. Malheureusement, ma pauvre mère. Mais effectivement, alors j'ai jamais voulu que mes parents soient présents sur le plateau parce que, oui, c'est comme, alors pas faire l'amour avec elle, mais comme faire l'amour devant elle,
pardon.
Et ce qui est moins, moins glauque quand même. Mais...
pardon.
Ça reste glauque quand même de faire l'amour devant sa mère, mais c'est moins glauque que faire l'amour avec sa mère. Non, c'est hyper drôle. Et donc, oui, c'est un terrain en tout cas sur lequel j'ai besoin de cette intimité et de pouvoir être de couper les ponts. Et tu es morte.
Je suis désolée, j'ai un fou rire.
C'est très bien. C'est parfait. Faut le laisser ce fou rire, faut pas le couper. Hein.
Ok, c'est comme tu veux.
Faut pas le couper.
C'est ton émission.
Faut pas. C'est beau petit moment.
Je te laisse finir. Ouais.
Non, bah c'est tout. Après, les limites, ça évidemment, j'en ai, c'est par rapport aux autres. Mes limites à moi sont infinies. Mes limites à moi, enfin, s'arrêtent aux limites des autres. Voilà ce que j'ai envie de dire.
C'est mieux pour un policier.
Oui, c'est mieux pour un
policier. Parce que c'est mieux pour toi.
Ouais, on le dira pas à l'académie de police de Californie, mais je vais dire un truc qui est délicat, c'est-à-dire je suis un peu, d'ailleurs j'ai interprété Gainsbourg, j'ai l'impression d'être un peu un Gainsbourg avec les limites du temps dans lesquelles on vit aujourd'hui, hein, bien évidemment, mais peu de choses me heurtent, me dérangent. Après j'ai un profil aussi social qui fait que peu de choses peuvent me heurter et me déranger, mais en tout cas tant que ça ne dérange pas les autres, mes limites sont infinies.
Très bien, une petite dernière.
Oh, carrément, même, okay. Même avant-dernière, de toute façon on sait sur quoi on va tomber. Oh là là, il est lourd. Ah, politique, waouh.
Est-ce que tu t'y intéresses? Alors... En plus c'est compliqué un peu pour toi parce que tu es suisse, français, américain. Du coup tu t'intéresses à quoi? À la politique de quel pays du coup? Si tu t'y intéresses.
Je suis pas expert en politique, hein, donc je peux pas vraiment m'affirmer sur ce sujet-là, mais je suis de loin la politique française qui me casse les couilles, disons-le. Ça, c'est le sujet où je peux vriller, mais faut que je fasse attention là à ce que je dis. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle la Suisse. Je suis né en Suisse, et en Suisse, on a beaucoup de chance parce qu'on a un système politique à référendum. Donc, on vote sur absolument toutes les lois que notre gouvernement nous propose. Et en plus de ça, nous n'avons pas un président, mais 7 conseillers fédéraux, donc qui représentent chacun un parti. Donc, on a finalement un conseil fédéral assez bien représenté, assez équitable en termes de partis politiques et de bords politiques. Donc, moi, j'ai grandi dans ce pays dans lequel, voilà, on ne se plaint pas vraiment de notre politique, puisqu'elle fonctionne assez bien. Maintenant, elle fonctionne par la taille du pays, donc c'est pas, je pense, une politique qui pourrait fonctionner en France. Et on a cette grande France à côté de chez nous. La plupart des gens regardent le 20h de TF1.
Et vous assistez au désastre.
Et on assiste au désastre. Et avec notre regard de Suisse, on juge beaucoup les Français. On juge beaucoup la politique française. Et en tant que Français, c'est un peu compliqué. J'ai ce cul de chaise entre la Suisse et la France. Parler de politique, c'est extrêmement délicat. Maintenant, j'ai mon regard par rapport à la politique française.
Est-ce que, plus globalement, il y a déjà une mesure politique dont tu as été content? Une avancée en politique où tu t'es dit, ça, c'est une bonne chose?
Alors, tout ce qui est progressiste, je suis extrêmement content quand ça passe, évidemment. Je suis absolument pas quelqu'un de, comment on dit, de conservateur.
Et aux États-Unis, tu suis un peu les élections?
Je suis un peu, ouais, je suis un peu. Et puis, ça me fait peur. Les États-Unis me font peur, pour le coup. Il y a un vrai problème. Je dis pas qu'il y en a pas en France du tout, hein. Mais je dis, il y a un vrai problème de racisme et puis de séparation de deux mondes aux États-Unis, hein. Vraiment, enfin, sur les démocrates et les républicains, il y a un tranché qui se fait, qui est de plus en plus énorme. Et la potentielle réélection de cet oiseau aux cheveux jaunes est un peu terrifiante. Parce que je dirais que les conservateurs américains sont vraiment badants, quoi. Ce sont vraiment des gens qui font flipper. Voilà, typiquement, là, ce qui s'est passé l'année dernière. En plus, j'étais à Los Angeles à ce moment-là, quand les lois des différents États ont été votées par la Cour suprême des États-Unis pour rendre l'avortement interdit dans certains États. Moi, je trouve ça, enfin, c'est un pas en arrière, mais c'est de la folie. On sait très bien qu'avec Donald Trump, c'est grâce à Donald Trump directement, puisque c'est lui qui a placé une majorité de républicains à la Cour suprême des États-Unis. Donc c'est grâce à lui en soi que cette loi a pu passer. Donc voilà. Moi, je suis plus touché par les États-Unis. La France, je suis un peu perdu en France, donc j'essaie de plus vraiment m'y intéresser d'aussi près. Les États-Unis me touchent plus, et la Suisse, tout va bien.
Casey, écoute. À moins que tu aies vraiment
très envie... T'as pas du tout aimé mes opinions politiques, du coup tu veux arrêter.
Je décide de mettre un terme à cet entretien. Merci beaucoup, Casey. Non, tu veux qu'on finisse sur une carte un peu plus joyeuse?
Ouais, on peut, carrément. On essaye d'en trouver une. Essayons, si on a une plus joyeuse. Vas-y, tu peux la tirer, carrément.
Moi, je tire la
carte.
Ouais,
carrément.
Moi, je tire la carte.
Ouais, ce serait cool.
Tu crois que j'aurai la main heureuse?
Peut-être plus heureuse que la mienne.
Cette couleur moche, crème. Alors, mensonge.
Très très bien.
Non, c'est pas joyeux.
Très très bien.
Bah, ça dépend, tu vas me dire. Solitude.
Solitude. Ah.
Est-ce que ta solitude est joyeuse?
Elle le devient. Ouais.
C'est un truc qui a pu te faire peur, la solitude?
Ouais, carrément. Surtout quand j'étais en couple. Je viens de me séparer, j'ai été en couple pendant 6 ans au Maroc avec une Marocaine, mais je suis très très proche d'elle encore, donc c'est chouette. On est très potes. Et non, tout ça pour dire...
C'est pas fini tout ça.
Non, si c'est fini et pour le mieux, mais c'est j'ai bien aimé là comment la relation s'est transformée, c'est agréable. Mais pour dire non, la solitude, c'est quelque chose que je considère de très important, et j'aime être seul, mais je crois que je préfère être entouré de gens. Et j'aime beaucoup l'amour. Enfin, ce sentiment est un sentiment que je kiffe grave, et j'adore le ressentir. Et donc j'ai hâte de retomber amoureux, quoi.
Donc tu aimes être entouré des gens que tu aimes, des gens que tu chéris. Et cela me permet de te demander qui tu souhaiterais que j'invite dans cette émission, qui serait ton meilleur espoir?
Alors, sans aucun doute, hein, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère, c'est mon tout, c'est mon amoureux aussi, si sa femme le veut bien. Quentin Fila, avec qui on a tourné dans Quand on a 17 ans ensemble d'André Téchiné, et on ne s'est jamais quitté depuis.
C'est là que vous vous êtes rencontrés.
C'est là qu'on s'est rencontrés, ouais, tout à fait. Et c'est vraiment mon meilleur ami. Et au-delà d'être mon meilleur ami, c'est vraiment un grand espoir du cinéma français. Et un excellent acteur que j'admire beaucoup et avec qui j'espère j'aurai la chance de retourner une fois, quoi. Donc, sans aucun doute, mon pote Quentin Fila.
C'est dans la boîte. Merci beaucoup, Casey.
Mais merci à toi, Audrey. C'était vraiment trop cool. Merci.
Trop cool. Merci.